quand on est bien dans son corps et dans sa tête, on ne peut que performer.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Alors que le sujet de la maternité chez les sportives de haut niveau vient d'être remis sur la table le 6 mars, lors d'une matinée de débat sur le sport féminin avec la ministre des Sports à la Maison du Handball à Créteil, j'ai de mon côté eu l'opportunité de rencontrer Isabelle Yacoubou, basketteuse emblématique de l'équipe de France, championne d'Europe en 2009 et vice-championne olympique à Londres en 2012 avec les Braqueuses, qui a fait le choix de devenir maman pendant sa carrière. Une première, à l'époque, dans le monde du basket français. Si pour elle, c'était une évidence de devenir maman jeune, elle a pu se rendre compte assez rapidement que ce magnifique projet allait vite devenir un parcours du combattant et que rien n'était alors mis en place pour l'accompagner et la soutenir dans sa maternité. De l'adoption de son fils Espoir en 2015 à la naissance de sa fille Lina en 2019, Isabelle lève le voile sur la réelle complexité d'être mère et sportive de haut niveau, mais reste positive quant à l'avenir sur ce sujet. D'ailleurs, des représentantes de la Ligue féminine de basket ont expliqué, lors de la matinée de débat du 6 mars, vouloir conclure leur convention collective intégrant des dispositifs sur la maternité au 1er juillet prochain. Ça, ce serait une très bonne nouvelle et quelque chose nous dit qu'Isabelle n'y est pas pour rien. Salut Isabelle.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, Cléo. Merci de me recevoir.
Bah merci à toi, tu rigoles. C'est plutôt c'est un honneur de recevoir, j'ai envie de dire, une légende. J'ai pas peur. N'ayons pas peur des mots.
Voilà. Attention.
Du basket français. Mais non, mais c'est vrai, complètement.
Ouais. Merci beaucoup.
Avec une carrière quand même incroyable, dont on reviendra peut-être dessus après. Donc au contraire, c'est un grand honneur pour moi. Donc merci d'être là aujourd'hui, Isabelle.
Bah, c'est le plaisir, il est vraiment partagé, en tout cas, et d'avoir ce temps pour discuter, hein, papoter entre filles, donc c'est moi qui suis reconnaissante.
Je suis aussi contente parce que c'est vrai que ça arrive sur une actualité de ta part. Tu viens de sortir ton autobiographie qui est sortie il y a quelques semaines, je crois, aux éditions L'Archipel.
C'est ça, exactement. Géante.
Géante, ouais. Exactement, géante. Je crois qu'il y a même un sous-titre, Les matchs de ma vie.
C'est ça.
Qui retrace ta vie et ta carrière du début jusqu'à maintenant, à peu près, c'est ça?
Exactement. Et plus que les matchs, on a fait un petit clin d'œil au côté basket, mais contrairement au titre, je vous invite à lire le livre. Mais c'est plutôt ces matchs-là dont on ne parle pas souvent que vous allez retrouver dans ce livre, en tout cas.
D'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai lu le titre de ton livre, je me suis demandé, et j'imagine comme beaucoup de monde, même si ça peut paraître évident, mais pourquoi géante?
Au début, je pense que l'idée était partie de Amazon. C'est vraiment ce que je voulais. Après, je me suis rendu compte que dans la société où on est, Amazon a une petite connotation un peu négative. Mm-hmm. Une femme Amazon est tout de suite, je pense, caractérisée par cette femme guerrière, la colère, la bagarre dans ce côté qui chevauche dans la forêt amazonienne. Donc, ce n'est pas du tout l'idée que j'avais envie de transmettre. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir l'histoire qui est un peu mise en lumière avec les Black Panthers, avec le film Woman's King. Donc, c'est plutôt de ces Amazones-là dont je parle, ces guerrières africaines qui ont défendu des nations à leur époque et dont je suis issue, hein, puisque au Bénin, les Amazones, plus je suis vraiment originaire de la région des Amazones.
D'accord.
Donc, par mon physique, ça se voit déjà. C'était des femmes grandes, géantes, belles, qui étaient choisies aussi pour leur beauté, parce que cette double casquette-là de guerrière, mais aussi de séductrice. D'accord. Parce que quand on ne peut pas gagner les guerres par les armes, c'est elles qu'on envoyait pour séduire l'adversaire. Enfin bref. Donc voilà.
C'est d'autres armes.
Exactement, exactement. Donc géante, finalement. Parce que ça reprend cette idée de grande, de par ma taille, hein, par mon physique, et aussi géante de, par rapport à d'où je suis partie et où je suis arrivée, tout simplement.
Est-ce que tu t'es toujours sentie géante dans ta vie ? Est-ce que tu t'es toujours sentie, entre guillemets, hors du cadre ?
Alors, en me regardant, non. En vivant ma vie, non. Mais quelquefois, oui, je suis rappelée à l'ordre, c'est-à-dire au moment des shoppings, quand il faut s'habiller, quand il faut voyager dans les avions. Là, je me rends compte que, ah oui, en effet, je ne suis pas comme tout le monde, mais sinon, au quotidien, j'avoue que moi, je suis née dans une famille de grands, donc vivre parmi des grands et des géants notamment, parce que dans ma famille, les plus petits font 1m80, 82.
D'accord.
Voilà, donc c'est quand même un milieu de géants et non, je ne me suis jamais sentie extraordinaire, en tout cas, à part dans ces moments-là où tu ne trouves pas la tenue à ta taille ou à ta pointure, les chaussures, ou quand tu voyages. Et en effet, les gens, bah, ça ne rentre pas dans les sièges.
Mais c'est vrai que même dans ta vie en temps normal, dans ta carrière, tu t'es toujours sentie finalement comme tout le monde ?
Oui, je pense que c'est important pour moi. Et aujourd'hui, je suis maman aussi. C'est ce que je dis à mes enfants. On ne se définit pas par ce qu'on fait. On se définit par nos valeurs, qui on est. Et oui, enfin, normal, je ne sais pas si je suis très normale. Parce que pour faire quand même du sport de haut niveau, il ne faut pas être très normal pour le faire, parce que on rentre après. Voilà, ça, c'est des discussions que j'ai avec ma psy. Et la normalité, elle est où, la barrière de la normalité ?
Bien sûr.
Mais après, oui, je pense que je me définis comme quelqu'un, comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, en tout cas.
Avec le recul maintenant, quel regard tu poses sur tout ce que tu as accompli ? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est un peu générale, un peu vague.
Oui.
Mais qu'est-ce qui ressort maintenant ? Et d'ailleurs, pourquoi tu as eu envie ou peut-être même besoin d'écrire ce livre ?
Au tout début, c'était exactement la question que je me posais. C'est vraiment très bien, j'ai fait tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui, moi, me reste et qu'est-ce que je laisse comme trace ? Parce que, vous savez, cette obsession de vouloir marquer, de vouloir laisser une trace, moi, m'a toujours guidée. Et la réflexion du livre, elle arrive vraiment à ce moment-là et me dire, aujourd'hui, je vais bientôt arrêter ma carrière. Qu'est-ce que je laisse ? Alors, le livre, tout égoïstement pour moi, d'abord, c'était de faire un travail de mémoire, parce que j'ai tellement vécu de choses aussi que j'en oublie. Donc, ça a été une manière de travailler la mémoire, d'aller chercher des histoires, des fois pas forcément agréables, mais du coup, ça m'a forcé à coucher des mots. Et ça, c'est quelque chose que je laisserai, par exemple, à mes enfants. Donc, ils auront l'histoire de maman. J'ai peut-être fait des choix durant moi, ma carrière, qui les a pénalisés, même si aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais on fait, nous, nos choix et on espère que ça n'impacte pas négativement. Mais malheureusement, des fois, ça peut arriver. Donc, c'est aussi pour leur expliquer qu'est-ce qui m'avait amené à faire ces choix-là. Et puis, en deuxième partie, je me suis dit, moi, j'aurais adoré, quand j'ai commencé ma carrière, tomber sur un livre comme ça, une fille qui partait de rien finalement et qui rêvait de tout. Et que cette personne me dise, écoute, c'est possible. Donc, moi, mon histoire, j'espère que ça fera écho et surtout destiné à cette jeunesse qui a envie. Et aujourd'hui, on n'a pas les armes, on ne sait pas comment faire. On n'arrive pas à avoir une référence pour se dire, bon, je vais essayer de faire comme telle personne. Et moi, j'avais vraiment aucune référence. Donc, si aujourd'hui, en lisant ce livre, une seule jeune fille ou jeune garçon se dit, tiens, elle a vécu ça, elle s'en est sortie, je m'accroche et ça lui permet de gagner ses batailles, hein, qui ne seront peut-être pas les mêmes, ou même pas forcément sportives, mais des batailles de vie, tout simplement, ben, j'aurais tout gagné.
Donc, en fait, c'est un travail de transmission. Transmission pour tes propres enfants et transmission aussi pour des gens que tu ne connais pas, mais qui pourraient être inspirés par ton histoire.
Bien sûr, la transmission est très importante. Aujourd'hui, où on vit dans une société où on nous fait tout payer, Je pense que là où les gens ils étaient riches avant, c'était... Et moi, je le vois, hein, même dans les sociétés, la sororité était hyper importante. Mmh. Mais pourquoi ? Parce que les valeurs se transmettaient de mère en fille, de femme en femme. Et ces valeurs-là se perdent aujourd'hui. D'où ma démarche aussi de me former en tant qu'entraîneur, parce que je pense que c'est important que tout ce que j'ai pu accumuler et les échanges et les cadeaux que j'ai reçus d'autres entraîneurs, d'autres joueurs, d'autres joueuses, que je puisse à mon tour le transmettre et pas le garder pour moi, parce que la vie, c'est, voilà, moi je crois en cette énergie qui circule tout le temps et qu'il ne faut pas l'arrêter à un moment, il faut continuer à la transmettre et à faire circuler.
Et à redonner ce qu'on t'a donné, toi, dans ta carrière et dans ta vie.
Exactement. Après, ce n'est peut-être pas sous la même forme. Et ce que j'ai reçu, je ne pourrais peut-être jamais le donner. Mais en partageant en tout cas mon histoire, j'espère déjà vous faire sourire certains, parce que je pense que les gens ne me connaissent pas vraiment aussi. Mm-hmm. Donc, c'est une manière aussi de me découvrir et d'avoir un sourire. Ou un sentiment peut-être qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas lu le livre.
Tu as été une figure de l'équipe de France pendant des années, tu es vice-championne olympique à Londres avec les braqueuses. Oui. Donc ça, voilà, c'est quand même une période
très faste de l'équipe
de France. Ouais. Et entre autres, bon, je ne vais pas détailler tout ton palmarès, oui, mais tu as gagné beaucoup de choses, oui, tu as eu beaucoup de médailles, que ce soit en club ou en équipe de France. Et c'est vrai que moi, je trouve en tout cas que tu a marqué de ton empreinte, et pour plein de choses, effectivement, comme tu le disais, que ce soit, quand je te disais au début, est-ce que tu te sens géante et à part, peut-être que toi, non. En tout cas, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pouvait le ressentir comme
d'accord.
ça.
Non, pas du tout. Au contraire, moi, je trouve que, justement, par ma personnalité très extravertie, les gens se limitaient juste à ça, alors que peut-être que je disais d'autres choses qui n'étaient pas entendues. Donc, c'est peut-être aussi une manière de recentrer aussi le débat, de prendre un peu plus de temps de parole pour mes idées, pour qui je suis, au-delà de la fille qui porte juste les cheveux
bien
bleu, blanc, rouge.
Tout à fait. Tu dis que tu avais envie qu'on entende les choses que tu avais à dire. Oui. Ça, c'est quelque chose qui t'a suivi vraiment tout au long de ta carrière.
Oui.
Quelque chose d'important, tu voulais qu'on t'entende, qu'on
bien
entende
sûr,
ta voix.
Bien sûr, et ça s'est passé pour moi par cette chevelure, cette extravagance. C'était une manière d'attirer l'attention, évidemment, même si je sais que c'est contradictoire. Je fais 1m90 et plus de 100 kilos, donc physiquement déjà j'attire l'attention, mais j'avais ce besoin-là, en tout cas, d'être remarquée, de ne pas passer inaperçu, d'être entendue.
Et est-ce que tu avais l'impression finalement en fait, qu'on n'écoutait pas vraiment les sportives à ce moment-là?
Bah, c'est exactement là où je voulais en venir. Ouais, je pense que on était, quand moi je commence ma carrière, très tôt, je me rends compte que le milieu dans lequel j'évolue, en fait, nous chosifiait.
Ok.
Je suis la projection de quelque chose qu'on attend de moi, mais que finalement, peut-être que je rentre pas totalement dans cette case-là. L'athlète de haut niveau, oui, c'est une battante, oui. Et mon côté, justement, Amazon, guerrière en moi, ressort beaucoup. Mais de l'autre côté, moi, je revendiquais ma féminité. Après les matchs, j'étais maquillée, je portais des talons de 8 cm. C'est des choses qui pouvaient choquer. Mais t'es déjà grande, t'en as pas besoin, alors que ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, tout le monde le sait que c'est voilà, pour la posture et la stature plutôt que pour la taille qu'on met les talons. Mais à l'époque, c'était déjà des sujets qui étaient des sujets alors que ça ne devrait pas l'être. Mmh. Voilà, c'était plus ça. Des trucs qui ne devaient pas être des sujets, finalement, l'été. Et moi, j'étais là, mais non. En fait, je ne le vis pas comme ça. Et c'était peut-être inconsciemment la manière que j'ai trouvé d'attirer le regard vers moi et finalement de me faire voir, finalement, à défaut de me faire entendre.
Tu avais l'impression qu'on te cantonnait à ton rôle de sportif de haut niveau? Oui. Un point, c'est tout?
Absolument. Absolument. Et même... je me revois dans plusieurs conversations quand on parle avec les gens, ils se surprennent. Oh là là, mais tu parles bien français. Ça, c'est vraiment la chose la plus insultante que j'ai jamais entendue. Pourquoi ? Parce que les athlètes, on n'est pas cultivés. Enfin, c'est quand même un peu choquant quand on te parle ou tu parles à quelqu'un et qu'on te dit voilà, moi la première chose qui m'a surprise c'est ton français, tu t'exprimes très bien en français, oula. Je suis désolée, mais ce n'est pas un compliment, en fait.
Ah bah non, voilà. Non, clairement pas, clairement pas. Et outre l'aspect sportif, et tu le dis, on sent que tu as voulu finalement vivre ta vie comme tu le souhaitais, malgré ton statut de sportif de haut niveau, dont ton souhait et ton envie d'être maman. C'est vrai que ça, c'est un sujet maintenant, et heureusement, dont on parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de sportives qui deviennent maman en carrière. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde plus. À l'époque, ce n'était pas vraiment le cas.
Non, absolument pas. Je me rappelle qu'il y a un peu plus de 10 ans maintenant, quand je finis à Tarbes en 2009-2010, je crois. Oula, ça fait un moment. et je pars pour mon cursus à l'étranger. Je dis à mon agent, c'est important de dire au Clem, alors oui, j'ai mes particularités physiques et des genoux qui sont foutus et ça... J'ai jamais voulu le cacher, donc on annonçait la couleur dès que j'arrivais. Il faudra gérer mes genoux. Je ne peux pas avoir la même charge de travail que tout le monde. Et ça, c'était important pour moi d'être transparente dessus, mais aussi sur ma vie de maman. C'est-à-dire que moi, j'ai très tôt été mariée et la maternité, ça fait partie des non-sujets pour moi, mais qui devenait un sujet vu le métier que j'avais embrassé. Et j'ai été très claire dessus aussi très tôt, c'est-à-dire que je ne cherche pas à tomber enceinte, mais si jamais ça arrivait, c'était quelque chose qui était un projet, parce que moi, je n'imaginais pas ma vie. Voilà, je pense que j'ai toujours été faite pour être maman, je le dis, et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je n'aurais pas pu faire ma vie sans avoir été maman. Après, il y a 40 000 manières d'être maman aujourd'hui, et peu importe le moyen finalement, mais je savais que je voulais être maman ou accoucher, porter mon bébé, adopter, faire porter. Enfin, le choix, il était assez large et franchement, je m'en foutais un peu parce que le plus important pour moi, c'est d'élever une personne et ça, c'était important pour moi. Et ça, le message, il est passé à tous les clubs et à aucun moment, ils pouvaient dire que j'ai triché ou qu'ils ne savaient pas. Mmh. Donc oui, ça aussi.
Et comment ça s'est passé concrètement quand tu as entamé les démarches pour l'adoption de ton fils,
d'abord.
C'était en 2015, enfin il arrive en 2012, il arrive en 2015, je crois, c'est ça?
C'est ça.
Tu as commencé les démarches en 2012. Ouais. Comment ça s'est passé concrètement, pour le coup, dans le milieu sportif?
Oula, ça a été au début, je pense, un tsunami, parce que l'idée est arrivée en 2012. Bah, après la médaille, hein, j'ai eu envie de m'arrêter, et puis finalement, j'ai continué. Mais en 2014, là, je commence à faire les démarches.
D'accord.
J'étais en Turquie, 2013-2014. Je jouais à Fenerbahçe et je leur ai dit, voilà, moi, mon souhait, c'est d'adopter. Donc, ce n'est pas impossible que durant cette année, cette saison, on puisse m'appeler pour aller voir un bébé ou sur les démarches. Et eux étaient OK sur le principe. Donc, à l'étranger, ça s'est plutôt bien accueilli.
D'accord.
Seulement que l'année se termine et mon bébé n'est toujours pas là. Mais vers la fin de la saison, j'ai quand même la chance d'avoir été présentée à mon fils. Et là, moi, je pensais que du jour au lendemain, elle allait venir. Donc forcément, j'étais dans cette démarche-là. Après, mon avocat m'a dit, bon, il faudra quand même compter 3 à 6 mois. Donc, 3 à 6 mois, je me suis organisée. Et c'est là où je prends la décision de partir en Chine.
D'accord.
Parce que le championnat chinois commence en octobre. Mais ça dure 3 mois quand on n'est pas en play-off et 5 mois maximum. Donc, je savais qu'au mois de février, je serais libérée.
Oui, c'était plus pratique
pour toi. Exactement. Si je voulais récupérer mon fils, il arrivait soit en fin d'année ou en début d'année, que D'accord. je puisse être disponible pour lui. Donc, je décide d'aller en Chine pour ça, avoir le temps après d'accueillir mon fils. La Chine se passe de manière vraiment... un livre.
Rocambolesque.
Oui, exactement. On est en play-off, mais finalement, on est quand même éliminé du championnat. Donc, je rentre en décembre. Et là, il y a le club de Famille Laschio, le président, qui m'appelle et qui me dit, écoute, nous, on est en difficulté, Isabelle, et il n'y a que toi que je vois qui puisse nous aider. Parce que ce n'est pas de jouer ce qu'on a besoin, mais j'ai besoin d'un leader, j'ai besoin de quelqu'un qui va gérer les vestiaires, parce qu'aujourd'hui, on a une capitaine, mais ce n'est pas une meneuse d'hommes, elle n'est pas écoutée. Là où toi, t'as toujours été écoutée et ce club, nous, il a toujours eu un attachement pour moi. Et je lui dis, mais moi, je suis en attente de mon bébé et je peux partir à n'importe quel moment. Donc, je ne me vois pas m'engager professionnellement, sachant que je pourrais partir un mois plus tard. Il me dit, écoute, ça me va. ça me va, tu viens. Et quand tu dois partir, ben, tu partiras. C'est le deal.
Bon. Okay.
Ben, j'étais à la maison. Donc, en plus, j'habitais en Italie à l'époque. Donc, je ne me suis pas vraiment posé trop de questions. J'y suis partie parce que je connaissais aussi le sérieux de ce club et, mmh. et leur humanité, la capacité à comprendre quand je devrais partir que bah, la priorité, c'était mon fils et plus le basket à ce moment-là précis de ma vie. Et ça s'est passé vraiment tout naturellement. Quand je récupère mon fils, il l'accueille avec moi à Schio en Italie et il intègre vraiment, c'est un membre de l'équipe. Ce n'est même pas, il est devenu la mascotte, alors qu'il y avait une autre maman qui avait son fils, mais elle ne ramenait pas beaucoup son enfant. Est-ce que c'est parce que peut-être j'étais étrangère, j'avais un nounou qui s'en occupait, du coup il était présent à la salle souvent. Quand je m'entraînais, il était souvent dans les gradins avec son nounou. Donc le fait d'avoir eu cette proximité avec ouais. les filles, mais sans déranger le travail, et que le club aussi a vu que... finalement, dans mon rôle de maman, ça ne m'empêchait pas de jouer mon rôle de joueuse et de performer même. Au contraire, mes performances ont vraiment augmenté parce qu'une sérénité retrouvée. On va pas faire la liste des bienfaits quand même du bien-être.
On pourrait.
Du bien-être par rapport à la productivité et à la rentabilité au travail. Donc, quand ils ont vu ça, bah, ils ont accompagné. Ils étaient ouverts à tout. Mon fils venait en déplacement avec nous, ce n'était pas un problème. Mm-hmm. Pendant le match, des fois, c'est même le directeur sportif, le GM, qui le gardait. Et ils l'ont complètement intégré à l'équipe, quoi. Donc ça a été... voilà.
T'as trouvé un cadre professionnel, du coup, qui...
Bienveillant.
Bienveillant et qui embrassait complètement tes choix de
Exactement.
Femme.
Exactement. Et surtout, là où je trouve qu'ils ont été intelligents, c'est de comprendre que l'athlète, elle est là pour performer. Au haut niveau, on cherche la performance. Et pour performer, il faut être bien, en fait. Et quand on est bien, on performe. Et une maman qui est séparée de son enfant et qui se fait du souci des conditions dans lesquelles sont gardés son enfant ne peut pas être concentrée sur le travail qu'elle fait, alors que bah, finalement, le fait de m'avoir autorisée à pouvoir l'amener à l'entraînement, à l'avoir sous les yeux, à voir... Parce que c'est quand même... En plus, l'histoire de moi, mon fils, elle est un peu tragique puisqu'il perd sa maman, il n'avait même pas un an et demi. Donc, la présence que moi, je voulais avoir pour lui était importante. Et pour moi, était indispensable pour son épanouissement et son équilibre. Mmh. Et ça, ils l'ont complètement compris et ils m'ont accompagnée dans cette voie. Donc, c'était vraiment royal.
Et en parallèle, tu étais aussi dans l'équipe de France. Comment ça a été accueilli côté équipe nationale?
Beaucoup moins bien, vraiment.
D'accord.
D'ailleurs, la première année, quand je récupère mon fils en 2015, je ne vais pas en équipe de France.
C'est ton choix.
En 2014, pardon. Non, bah. Choix, oui et non, parce que à l'époque, c'est non, on n'a jamais ramené un enfant en équipe de France.
C'était la première fois que le cas de figure arrivait?
Oui, parce que les filles qui avaient été en équipe de France, il y en avait une, Sandra Dijon, mais son enfant était grand. Elle n'avait jamais sollicité, en tout cas, l'équipe de France par rapport à ce sujet. Et son fils devait avoir 7-8 ans quand elle a commencé à être en équipe de France, je pense. Donc, elle n'a jamais... poser ce problème-là. Et quand moi, je le pose, oui, ils sont désemparés parce que ça... Mais c'est jamais arrivé, en fait.
Ouais.
Donc, la première année, je fais l'impasse en 2014 et sur l'équipe de France. Et en 2015, j'y vais. Évidemment, il n'est pas accepté. Mais je m'organise autour pour que mon ex-mari, à l'époque, puisse venir. Donc, c'était une organisation. Il fallait savoir dans quelle ville on allait, pouvoir prendre des hôtels pas trop loin, ou soit dans mon hôtel ou pas trop loin de l'hôtel où on était, nous, l'équipe de France, pour pouvoir, dans mes temps morts, pouvoir voir mon fils. Et en fait, ça a été une organisation serrée comme ça jusqu'au bout. Et ça, sur une année olympique, j'ai refusé de le faire, en fait. En 2016, ce n'était pas possible parce qu'en 2016, il faut savoir que les années olympiques, on sort d'une saison. Où moi, je joue en Euroleague et ça fait 9 mois que 8 mois, vous êtes dans une compétition, vous jouez 2 matchs par semaine. On sort de là, on n'a même pas une semaine de repos quand on va en équipe de France.
Ouais.
On a 3 semaines, 4 semaines pour préparer le championnat d'Europe ou les TQO. À l'époque, pour nous, c'était les TQO. Et après les TQO, on a une semaine de repos et on repart sur une prépa pour les Jeux. Donc finalement, on passe pratiquement 3 mois en équipe de France l'été.
Ouais,
donc
c'était
inenvisageable de partir 3 mois sans voir mon fils. Et sachant que les Jeux étaient à Rio et qu'on passait aussi une partie de notre préparation aux États-Unis, j'allais partir finalement 6 semaines sans voir mon fils.
D'accord. Ouais.
Donc j'ai dit, écoutez, je veux bien faire des efforts. Qu'ils ne viennent pas à Rio, OK, mais sur la première phase de la prépa, moi, j'ai besoin qu'il soit là. Mm-hmm. J'ai besoin qu'il soit avec moi, dans ma chambre, tous les jours, quand je rentre de l'entraînement, que je puisse le voir, parce que je vais partir après 3 mois, quoi, en fait, mm-hmm. tout simplement. Et au début, oui, pareil, un peu reçu froidement. Ah non, ça ne va pas être possible. Mais de toute façon, l'année dernière, tu as réussi à t'organiser. J'ai dit oui, l'année dernière, c'était sur 2 semaines et ce n'est pas long.
Ouais.
Mais sur 3 mois, ce n'est pas possible.
La même chose,
ouais. Non, et puis, ce n'est pas le même investissement financier aussi, finalement. Donc là, j'ai le président de la fédération qui m'appelle, Jean-Pierre Suttat, et je lui explique, comme je vous dis là, je lui dis, voilà, moi, mes besoins pour être tranquille et sereine et pouvoir me concentrer pour le basket et performer, j'ai besoin que mon fils soit là. Mm-hmm. Il me dit, mais c'est tout? Je fais, ben oui. Il dit, bon, ben très bien, on fera en sorte que ça arrive. Et finalement, moi, je demandais juste la présence de ma famille dans l'hôtel où on était et que finalement, nous, on payait les chambres d'hôtel. Mais finalement, il a dit, non, non, ils seront dans ta chambre puisque vous êtes toutes en chambre individuelle et que on va demander à avoir un surclassement, que tu aies une chambre plus grande qui puisse recevoir ton mari et ton enfant. Donc d'accord. Finalement, ça s'est passé.
En fait, ça a été un gros problème au début.
Oui.
Et finalement, ça a été résolu assez...
en un coup de fil. Voilà, absolument.
C'est facilement, c'est surprenant. En fait, finalement, c'est quoi? C'est l'encadrement qui était réticent?
Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de détails là-dessus. Mais toujours est-il qu'on fait vraiment, et c'est ça, un petit problème, on en fait quelque chose d'énorme.
Montagne,
ouais. Alors qu'il ne devrait vraiment pas y avoir de sujet. Quoi. On ne devrait pas être là en train de parler aujourd'hui, en 2023, de femmes qui travaillent et qui sont mamans. On le fait tous les jours dans les bureaux. Vous travaillez, vous rentrez chez vous, ça ne vous empêche pas d'amener vos enfants à l'école, de les habiller, de les nourrir, d'être une bonne mère. Et pourtant, le lendemain, on repart au travail. Et c'est la même chose, finalement, dans le sport. Alors, ce n'est pas les mêmes contraintes parce que la présence n'est pas pareille. Mais dans le fond, c'est le même fonctionnement. Quoi. C'est deux métiers différents. Parce que pour moi, maman, c'est vraiment un vrai métier.
Bien sûr, bah oui.
Donc, c'est deux métiers différents, mais qui ne sont pas absolument incompatibles.
Tu sentais à l'époque que le fait d'être maman pour l'équipe de France, c'était justement détourné de la performance, que ça allait t'encombrer, tu vois, presque, d'autre chose que de « bah, il faut réussir, c'est la performance, un point, c'est tout ».
Moi, personnellement, non, mais c'est le regard des autres que j'avais.
Ouais.
C'est ce que les autres me renvoyaient, c'est-à-dire que dans les craintes et dans les peurs de ce que j'entendais, les dirigeants, les supérieurs et même certaines collègues, c'était « oh là là, mais comment tu vas réussir à gérer ça ?» Alors que pour moi, ce n'était pas du tout un sujet, en fait, parce que, comme je l'ai dit, quand on est bien dans son corps et dans sa tête, on ne peut que performer. Donc oui, c'était quand même un sujet pour le monde qui m'entourait, on va dire.
Est-ce que tu as senti aussi que finalement, ce cas de figure qui était là, qui arrivait pour la première fois, a fait un peu se questionner justement la fédération, l'équipe de France et l'encadrement, que ça a fait un peu bouger une première ligne à ce moment-là?
J'ai eu l'impression, mais je pense que l'histoire m'a montré que non, puisque quelques années plus tard, Valériane Ayayi, Vukosavljevic, elle n'a pas été au jeu. Et ça, pour moi, ça a été vraiment... Je l'ai vécu comme un échec parce que j'ai dit, mince, on l'a déjà fait. Pourquoi on régresse, en fait? Pour moi, c'est vraiment régresser parce qu'on l'a déjà fait et ça a fonctionné. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui n'a pas voulu prendre le risque parce qu'un bébé trop petit, aller jusqu'en Australie, c'est loin. Je n'ai pas les détails de son histoire à elle. Mais je trouve que mon histoire aurait pu servir de base pour mettre un cadre, en fait, et même formaliser les choses en se disant, très bien, les filles aujourd'hui peuvent venir en équipe de France avec leur bébé. On peut prendre en charge.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ça, on peut. Et peut-être qu'en disant ça, elle aurait peut-être été rassurée dans un sens de se dire, OK, j'y vais avec mon bébé, mais je sais qu'il y a une partie de la logistique où je n'ai pas à m'occuper. Et s'il faut Parce qu'on a beaucoup parlé avec Valou avant qu'elle ne tombe enceinte. Et elle m'avait dit, mais comment tu fais ? Je dis, mais il faut juste s'organiser. C'est faisable, en fait. Et si on n'y arrive pas, aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des nounous, il y a des filles au père. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour nous soulager aussi.
Est-ce que tu penses que aussi le fait finalement de ne pas être vraiment soutenu par la Fédé, par le basketball, hein, globalement en fait, hein,
la société,
la société tout aussi, tout à oui. fait, dissuade les sportives qui ont pour le coup envie d'être maman de ne pas le faire.
Bah malheureusement oui, parce qu'aujourd'hui pour un homme c'est facile, un homme qui il a ses enfants pendant sa carrière et on trouve ça normal qu'une femme arrête de travailler parce qu'elle est femme de sportive de haut niveau. Et c'est normal qu'elle arrête de travailler pour s'occuper de la maison, des enfants, que monsieur ait son confort d'aller travailler parce que le métier quand même de l'athlète de haut niveau, c'est beaucoup de courir, travailler, mais c'est aussi beaucoup dormir. C'est aussi l'autre face de la médaille que les gens ne voient peut-être pas. Et on trouve ça normal que madame, elle, arrête sa vie professionnelle et qu'elle se consacre à la famille. Inversement, on ne trouve pas d'homme qui renonce à tout, à travailler, à tout ça, pour que la femme puisse s'exprimer. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est la société qui a complètement abandonné l'athlète de haut niveau, femme, qui, dans ce rôle-là, malheureusement, moi j'en connais plein qui ont dû renoncer, mais je ne voulais absolument pas le faire parce que je sais aussi le combat, et parce que je l'ai vécu avec certaines, le combat que ça a été de se lancer après dans la maternité, après 40 ans, après des carrières où on use nos corps, où on fatigue nos corps, où on les maltraite, parce que c'est le mot. Le sport de haut niveau, c'est vraiment de la maltraitance. Et que ces femmes-là ont vraiment, pour certaines, n'ont même jamais réussi à connaître la maternité, FIV après FIV, méthode de fécondation. Et pourtant, ça échoue parce que le corps a été trop usé et que finalement... on est des femmes et on est aussi réglé par cette horloge biologique et que quand c'est plus l'heure, ben c'est compliqué. Après, moi, je voulais absolument pas vivre ça.
Est-ce que tu as senti que tu faisais des choix quand même liés à ta carrière de sportive de haut niveau ?
Ah oui, alors, l'adoption, je l'aurais fait.
D'accord.
Quoi qu'il arrive, moi, j'ai grandi avec une mère, instite qui nous a élevés seuls avec mes frères et sœurs, puisque moi, mon père travaillait dans un autre pays, donc aussi une structure familiale pas classique comme tout le monde avec papa et maman à côté. Mais ça ne l'empêchait pas d'élever ses neveux, ses nièces. Nous, on avait des cousins, on n'était jamais seuls à la maison. Et il n'y a pas le terme adoption dans ce qu'elle faisait, mais elle a toujours élevé les enfants des autres. Donc pour moi, depuis toute petite... je voulais faire comme maman. Je n'avais pas de mots aussi. L'adoption, c'est arrivé bien plus tard. Et c'est en grandissant que je me suis dit, en fait, ouais, j'aimerais bien adopter, même si je fais mes enfants. Pour terminer, je pense qu'un ou deux enfants, j'adopterai. Et ça faisait partie de moi, mes choix de vie. Après, le fait de le placer en premier, oui, ça a été aussi conditionné par ma carrière. Parce que, comme je dis, c'est en 2012 que l'envie se fait vraiment présente pour moi de devenir maman. Et à ce moment-là, je suis vraiment... c'est la période où j'étais au sommet de mon art, si on peut dire, avec les braqueuses, en équipe de France, en club. C'est vraiment les années où j'ai le plus capitalisé aussi financièrement. Donc, m'arrêter à ce moment-là n'était pas judicieux. Donc, je me suis dit, de toute façon, adopter après ou avant, au final, c'est le geste qui compte. Moi, j'avais ce besoin d'être maman et adopter en premier ne m'empêcherait pas de toute façon d'enfanter après si j'avais la chance d'être bénie et de porter une grossesse. Donc, pourquoi pas ? Donc, je me suis lancée comme ça.
Ce qui a été le cas, puisque tu es devenue maman une deuxième fois en 2018, je crois. 2019, tu es tombée enceinte en 2018.
C'est ça, exactement.
Et comment ça s'est passé cette fois-ci ? Donc, c'est une grossesse que tu as portée. Est-ce que ça a été différent ? Est-ce que justement dans le cadre aussi également sportif, ça a été accueilli différemment ? Parce que la première fois, tu ne t'étais pas arrêtée, alors que là, la deuxième fois, bah, tu as dû t'arrêter.
Alors oui, deux grossesses, enfin deux maternités différentes. La grossesse, ça a été vraiment très impactante. En effet, quand j'accueille mon fils, moi, mon rythme de vie ne change pas. Parce que au final, l'enfant, je le découvre, il a un an et demi, mais j'ai mis un an et demi à le faire venir. Donc, quand il arrive physiquement avec moi, il a 3 ans, il fait déjà ses nuits, j'ai pas eu le côté bébé. Donc j'avais déjà un petit garçon qui était assez indépendant, en plus quand il est arrivé c'était incroyable, d'une autonomie, voilà, c'était plus un bébé vraiment que j'avais. Là quand je tombe enceinte, en plus ce n'était pas planifié, je venais de signer un contrat de 3 ans et tout de suite ça t'oblige à t'arrêter. Parce que en plus comme ce n'était pas une grossesse qui était planifiée, j'étais sous pilule.
D'accord.
Donc tout de suite grossesse à risque. Si je voulais garder le bébé, mon obstétricien, il avait été très clair et il me dit, écoute, si on a mis à coup, si vous voulez garder ce bébé, il faut arrêter le sport. C'est 3 mois d'arrêt.
Mais donc ça a été tout de suite.
Ouais, tout de suite. Donc parce que trop de risques, parce que justement pour faire accrocher le bébé, comme je l'avais, elle a été conçue sous contraceptif, le sport aurait été trop un facteur d'instabilité. Donc il m'a conseillé de tout de suite arrêter, ce que j'ai fait. Mais du coup, il fallait annoncer au club, puisque j'allais pas jouer, qu'il puisse rebondir. Et après, là où c'est compliqué, c'est que tu passes 9 mois, une année où t'as zéro rémunération.
J'allais y venir.
Zéro rémunération. Et ça a été vraiment difficile. Pas pour manger, pour vivre, parce que j'ai eu la chance d'avoir une carrière où j'ai gagné de l'argent. Mais quand on revient en France, parce qu'on est français et qu'en Italie, bon, moi, je décide de revenir en France, même s'ils m'ont proposé de rester. Je décide de revenir en France pour accoucher ici. Et là, on arrive, je mets 3 mois pour récupérer ma carte vitale seulement.
D'accord.
Et je mets 6 mois pour réouvrir mes droits. C'est-à-dire qu'un étranger arrive en France, au bout d'un mois, ses droits sont ouverts et il est pris en charge. Moi, en tant que Française expatriée qui revient, ils ont mis 6 mois à m'ouvrir des droits en France.
Comment ça se fait ?
Je ne sais pas comment c'est possible, mais ça a été le cas. Donc, tous les frais liés à la maternité, en plus, on avait peur pour la toxo parce que je n'étais pas immunisée. Tous les mois, il fallait faire des prises de sang, les échos, puisque c'était une grossesse, voilà, comme je dis, à risque au début. Donc, il y avait un suivi vraiment particulier qu'il fallait avoir et des visites répétées. Et ça n'a jamais été pris en charge. Et ça, j'ai trouvé ça inadmissible, vraiment. Toutes les aides qu'on a faites à l'époque, ah oui, mais en vue de vos derniers salaires, vous ne rentrez pas dans la catégorie des gens qui ont besoin d'argent.
D'accord.
Donc même si je ne travaillais pas, alors
que tu ne touchais plus de rémunération.
Exactement, exactement. Ils estiment que au vu des derniers salaires, tu n'es pas nécessiteux. Donc oui, pendant une année, nous on est restés ici et je dis. Inch'Allah, on n'est pas à la rue. Mais ça aurait pu tout de suite devenir une situation précaire si ça avait été une jeune athlète, par exemple, qui était en début de sa carrière ou quelqu'un qui n'a pas forcément gagné beaucoup d'argent. On peut se retrouver vraiment tout de suite en difficulté, oui.
C'est complètement dingue. Et c'est vrai que tu le dis, effectivement, toi, c'était plus récent, hein, c'était 2018-2019.
Oui, 2019, c'est ça.
À partir du moment où tu tombes enceinte, tu ne touches plus de rémunération.
Non,
c'est-à-dire que ton club ne te paye plus. C'est quelque chose qui n'était pas inscrit dans la convention collective des
basketteuses. Exactement.
Comme celle à l'heure actuelle, par exemple, pour les handballeuses.
Exactement.
Donc, en fait, tout s'arrête. C'est comme si...
voilà. Chômage. Et même pas de droit de chômage, rien du tout. Puisque en plus moi je suis partie 10 ans à l'étranger, donc j'avais vraiment aucun droit qui était ouvert en France, quoi. Donc ces retours, on attend. Tu fais des virements, tu libères des déplacements pour pouvoir vivre, mais tu vis à 4 sur des économies que tu pensais laisser pour les enfants ou voilà investir ou faire autre chose avec. Mais je dis heureusement nous en plus on avait cette solution de repli, mais ça aurait pu devenir tout de suite une situation précaire, oui.
Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu as l'envie d'aller justement discuter avec ton club ou avec la Fédération française de basket ou pour justement ouvrir ces discussions-là aussi et dire « Regardez, c'est quand même très problématique ».
À l'époque, tout de suite, non. Parce que moi, j'étais un peu sortie de la fédération. Moi, j'avais arrêté l'équipe de France depuis 2016, donc j'étais un peu sortie. Par contre, dès que j'ai re-signé mon contrat, parce que je n'avais pas accouché encore, que j'avais déjà re-signé, là, j'avais contacté le syndicat des joueurs.
D'accord.
Qui soutient aussi les joueuses, puisque même si nous, on n'avait pas de convention, on s'appuyait quand même beaucoup sur le syndicat des garçons. Et puis, je les avais sollicités pour savoir quelle était... Et ils m'ont dit, écoutez, on est en train de travailler en ce moment avec la ministre des Sports pour justement sortir au moins une feuille de route pour accompagner les clubs.
C'est fou qu'il n'y avait rien. Enfin, je trouve ça complètement... D'accord, donc, une feuille de route.
Ouais. Donc ça a été le début de la réflexion et puis de tout le travail qui a été fait ici à l'INSEP aussi avec... avec l'ancienne ministre des Sports, Roxana, qui a vraiment, du coup, sorti ce guide-là pour aider les clubs et les athlètes de haut niveau. Et aujourd'hui, pour moi, c'est quand même une belle fierté, même si j'en ai pas bénéficié, moi, personnellement, de me dire que déjà, ma situation, le fait de parler de ma situation, d'avoir alerté 2-3 personnes et d'autres athlètes aussi qui ont fait la même démarche, ont quand même conduit aujourd'hui à ce qu'il y ait un guide qui soit sorti, même si aujourd'hui, on n'a toujours pas encore la convention, mais on tend vers ça quand même et ça fait bouger en tout cas les lignes.
Comment tu trouves l'évolution sur le sujet de la maternité et de la grossesse en carrière? Est-ce que tu trouves que là, quand même, sur ces dernières années, toi, ta dernière grossesse, c'était il y a presque 4 ans.
Ouais.
Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des évolutions? Je veux dire, le cas de figure, c'est aussi de plus en plus présenté parce que dans d'autres fédérations, dans d'autres disciplines, il y a eu également des sportifs qui sont tombés enceintes.
Bien sûr. Ben, je trouve que ça avance. Ben, on voit toujours le côté, c'est vrai, négatif. Hein. On n'a pas si comme les autres. Ça avance. Ça ne va pas assez vite pour moi, à mon goût. Mais ça avance puisque aujourd'hui, il y a ce guide-là déjà pour le basket féminin, ça avance. Les handballeuses, je sais qu'aujourd'hui, elles ont la convention et elles sont plus protégées. Mais c'est le cas pour aussi, je crois que l'athlée aussi, ça commence à bouger. Il y a des choses qui se mettent quand même en place. Donc ça, il faut le saluer, il faut le reconnaître et il faut le mettre en avant. Et surtout, continuer à en parler parce que tous les coups de piolet qui sont mis dans la montagne, c'est ça qui fait bouger, quoi. Donc, il ne faut pas se contenter d'avoir « Ok, bon, ben ça y est, on a fait un pas, donc on s'arrête. » Non, au contraire, c'est le premier pas qu'on pense être géant. Ce n'est que le premier. Donc, il faut continuer, ne pas s'arrêter.
Est-ce que tu aurais eu envie d'autres accompagnements également? Parce que c'est vrai, quand on tombe enceinte, c'est quand même toute
Bien
une
sûr.
Aventure.
Oui.
C'est vrai qu'au-delà du soutien financier, après, il faut... Mais... pouvoir revenir.
Moi, la plus grande question qui s'est posée et ma plus grande difficulté, ce n'était pas vraiment la grossesse en elle-même, mais comment je faisais pour revenir à mon niveau. Pour moi, ça a été vite réglé puisque grossesse à risque, j'ai été arrêtée pendant 3 mois et après, j'étais un peu livrée à moi-même, donc moi, je n'ai pas repris. J'aurais aimé avoir une structure qui me prenne en charge, qui me dise non, en fait, aujourd'hui... enceinte, ce n'est pas une maladie. Et athlète de haut niveau, tu peux t'entraîner jusqu'à 1 semaine, 2 semaines de ton accouchement. Mm-hmm. Ça n'empêche pas. Le travail est fait différemment, mais c'était possible. Et ça, je n'ai pas eu. J'aurais aimé tomber sur ça. Aujourd'hui, je sais qu'il y a grâce aussi à ce guide, des centres qui sont plus aptes à accueillir des athlètes de haut niveau qui sont enceintes et qui ne peuvent pas... Je prends le cas de Valériane, par exemple. Jusqu'à la fin, elle s'est entraînée. Mmh. Elle s'est entraînée jusqu'à 8 mois de grossesse, 8 mois et demi. Donc ça, j'aurais aimé, à mon époque, avoir ce genre de soutien, même des conseils. Ce que ça allait changer en tant que femme dans mon corps, parce qu'il y a plein de choses que moi, du coup, j'ai découvert... Le rôle du périnée.
Le périnée, oui.
Tout simple.
Oui, bien sûr.
La première fois qu'on m'en parle, c'est quand j'accouche, quoi. Quand je suis dans le processus de la grossesse et de la maternité, que j'apprends ça, son rôle et l'importance que ça avait, que je puisse bien le rééduquer avant de reprendre le sport. Après la maternité, on fait des abdos, mais il ne faut surtout pas faire des crunchs. Enfin, y a plein de choses que j'ai découvertes, moi, sur le tas, mais parce que je me suis fait entourer et que j'ai payé des gens.
Ouais.
Et ça a été, moi, ma démarche, parce que je sais aussi que pour performer, on ne peut pas le faire seul, il faut aller chercher de l'aide. Et moi, avec mon expérience, j'ai su aller trouver cette aide-là externe et que moi, j'ai payé. Mais j'aurais aimé avoir accès à... à des conseils, à ce qu'il fallait faire, comment faire ma rééducation, les abdos sur la reprise, à combien de temps je pouvais reprendre la course, parce que moi, ça, je l'ai fait vraiment de manière autodidacte et juste avec ma préparatrice physique finalement et au ressenti en fait.
Mmh. Ouais, c'est, t'as tout fait un peu au feeling.
Exactement, vraiment.
Alors que c'est... Surtout dans le sport de niveau, je veux dire, tu ne reviens pas non plus...
Non, et puis voilà. On sait aujourd'hui, il y a quand même de vrais médecins, de vrais professionnels qui accompagnent les athlètes de haut niveau et qui connaissent les étapes. Après, chacun est différent et chaque joueur ou chaque joueur, chaque athlète a son corps et est différent avec ses problématiques et les particularités aussi de son sport. Mais je pense qu'il y a une base générale que ces professionnels-là maîtrisent et que moi, c'est un accompagnement qui m'a manqué pour ma reprise, absolument.
Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Effectivement, on n'en est encore qu'aux prémices. Malheureusement, même si tu le disais, ça évolue et qu'on prend enfin en compte.
Enfin.
Ce qui est quand même hallucinant, oui. On est en 2023, ouais. Mais... ce sujet-là, en fait, qui fait partie intégrante de la vie des humains, parce que je le mets des hommes et des femmes. Donc, on ne devrait pas faire de différence. Est-ce que tu dirais que, justement, le fait d'avoir été maman, ça t'a apporté une force, toi, supplémentaire aussi pour revenir dans ta carrière professionnelle et sportive, et que ça a modifié peut-être ta vision du basket ? Du sport en général.
Alors, moi, je ne remercierai jamais mon fils parce que c'est d'abord lui. Son arrivée m'a rendue meilleure. Mais meilleure joueuse parce que jusqu'à lui, j'étais vraiment quelqu'un d'hyper perfectionniste. Je le suis toujours, mais je n'avais pas de recul. C'est-à-dire que je vais rentrer, je fais un mauvais match, je vais être encore dessus à regarder les images. Oh là là, regarde ce que tu as fait. Quand on est maman et qu'on rentre à la maison, votre enfant, il s'en fiche un peu que maman ait bien joué ou pas bien joué. Lui, il a des besoins là tout de suite et il faut y répondre. Donc, en venant dans ma vie, en entrant dans ma vie, c'est ça qui m'a apporté d'abord. Pouvoir prendre ce recul-là et me dire, bon, ben, la vie continue, le sport, même si c'est notre métier, ne reste qu'un travail. Et nous, on a tendance à l'oublier et à le mettre vraiment de manière centralisée. Et d'ailleurs, c'est tous les métiers passion, c'est souvent ça. On vit à travers de nos performances. Et moi, mon fils m'a permis de me dire non, en fait, il y a une vraie vie qui est là, en parallèle dehors. Et en fait, il faut juste faire un pas en arrière pour pouvoir se dire ok, ce n'est que le travail. Là, c'est fini. Je suis rentrée à la maison. Et ici, c'est la vraie vie qui reprend son cours et reprend le pouvoir. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une vraie leçon de lâcher prise en premier. Donc,
ça t'a permis de prendre du recul sur ce qui était vraiment
les
important.
Attentes, oui.
En tout cas aussi.
Oui, et sur les attentes. Je me mettais beaucoup moins de pression. J'étais plus dans la notion de faire plaisir, de montrer l'exemple. Moi, c'est important pour moi parce que pour moi, l'éducation, ça passe plus parce que les enfants voient que ce qu'on leur dit, quand on parle, les mots ne restent pas beaucoup, alors que les images, les gestes, je trouve que ça reste. Donc pour moi, montrer à mes enfants aujourd'hui l'exemplarité, être combattante sur un terrain, voir maman lutter, aller s'entraîner tous les jours, la persévérance, ils le voient. Et je suis sûre que ça les marquera plus que si je ne le répète du matin au soir.
C'est beau. Non, c'est vrai. Et justement aussi, quel est le... Parce que j'imagine que ça a déjà été le cas, tu le disais avec Valériane. Toi, quel est le message que tu as envie de passer à ces sportives qui ont envie d'être maman, qui n'ont pas du tout envie d'arrêter leur carrière, mais qui écoutent aussi des témoignages comme le tien qui ne sont pas évidents, et qui donnent peut-être pas forcément... Enfin, qui donnent envie en tout cas d'être maman, mais qui, où tu te dis, bah ouais, en fait, ça ne va pas être de tout repos et ça va être un long chemin.
Bah moi, c'est simple, sportive ou pas d'ailleurs, moi je dis toujours, il faut faire ce qu'on a envie dans la vie en fait. La vie, elle est beaucoup trop courte et je ne sais pas si c'est peut-être parce que j'ai perdu beaucoup d'êtres chers que je suis maintenant vraiment assoiffée de vivre, qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Si on a envie d'être maman, il ne faut pas attendre, il faut le faire. Le reste, on trouve toujours le moyen de s'organiser et ce n'est que de la gestion et ce n'est que de l'organisation. Alors, je dis que, mais ça peut être aussi un autre challenge. Mais quand on est en accord avec ses principes et ce qu'on a envie de faire, on est heureux. Donc, si vous avez envie d'être maman, c'est très bien. Faites-le, vivez-le, parce que c'est vraiment une aventure. Et moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment je serais la femme que je suis si je n'avais pas été maman. Sincèrement, ça fait partie des étapes, je pense, pour moi en tant que femme, dans ma construction de la femme que je suis, qui ont été déterminantes, parce que ça m'a permis aussi, par rapport, encore une fois, à moi, mes attentes et mes valeurs, de remettre la balle au centre et de mettre la priorité là où ça l'est. Et pour moi, la famille, ça reste la priorité.
T'es fière justement aussi d'avoir montré ça aux autres.
Oui, que c'était possible. bien sûr que c'est possible. Et moi, je suis pas non plus arrivée là comme ça. Hein. Quand je suis tombée enceinte, tout de suite, moi, c'est Serena Williams. Alors, j'ai pas forcément fait exactement comme elle, mais de avoir eu son bébé et être revenue au haut niveau en un temps record, je me suis dit, bon, Isa, tu vas y arriver, toi aussi. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas... Voilà, tu vas y arriver. Et ça, pour moi, ça a été un moteur. Donc, si aujourd'hui, mon histoire permet à d'autres de se dire pareil, ben, tant mieux. Et oui, on y arrive. Alors, il ne faut certainement pas faire comme tout le monde et copier-coller. Moi, par exemple, je voulais allaiter absolument ma fille. Faire du sport de haut niveau et allaiter, c'est du suicide. Mmh. Mais je l'ai allaitée pendant un an et demi, ma fille. Mmh. Un an et demi. Je partais en déplacement au bout de... Elle avait 6 mois quand j'ai repris les matchs. Ben, je tirais le lait, je congelais. Alors, c'est une organisation. Hein, il faut... Voilà. Mais il faut faire ce qu'on a envie de faire. Moi, j'avais envie de faire ça et je me suis donné les moyens. Je pense que quand on a envie de faire quelque chose, on trouve toujours la solution pour pouvoir mettre ça en place. Donc, faites ce que vous avez envie.
On voit des Clarisses qui font, qui suivent le même chemin aussi à l'heure actuelle. Et c'est
exactement.
Vrai que on voit justement aussi de plus en plus d'exemples. C'est vrai que je pense que même vous, les sportifs, vous avez plus peur non plus aussi de le dire, de le montrer.
Et, oui. Moi, je sais que, par exemple, dans ma rééducation, c'était ce qui était important pour moi et dans mes réseaux. Bon, je suis très nature et moi, j'ai aucun filtre. Enfin, c'est rare. Mais quand j'allais marcher et que, par exemple, je devais marcher 2 heures, mais qu'au bout d'une demi-heure, j'ai mon bébé dans la poussette qui pleure, ben, je m'arrêtais, je faisais la tétée. Ça faisait pas partie de mon entraînement, mais c'est pas grave, on s'adapte et on s'ajuste. C'est ses besoins à elle à ce moment-là. Et pour moi, à ce moment-là, c'est elle la priorité. Et je montrais tout ça aussi et les gens ont vu que, ah oui, d'accord, on peut en fait. Oui, on peut. Après, au lieu de faire peut-être la demi-heure qui me restait, je faisais 40 minutes. Puisque j'ai eu une pause importante au milieu du travail que je faisais. Mais tout était possible. Je partais marcher avec elle parce que justement, je savais qu'aller faire 2 heures de marche, elle venait de naître, elle n'avait même pas 3 semaines, elle n'allait pas tenir et pouvoir supporter. En plus, c'était un gros bébé qui tétait beaucoup. Je savais que je n'allais pas pouvoir la laisser aussi longtemps, mais je partais avec elle et ce n'est pas grave. Alors oui, après, il a fallu investir dans une poussette de compétition. C'est vrai, hein, c'est ouais. Des choses auxquelles on ne pense pas. Mais la poussette qu'on avait d'abord achetée, finalement, je me suis rendu compte que pour aller faire du sport, elle n'était pas pratique. Possible. Donc, j'ai changé. J'ai pris une autre marque allemande avec de gros pneus, des pneus 4x4 tout terrain. Et là, mais vraiment de compète, quoi. Mais en voulant m'entraîner, j'ai trouvé la solution pour pouvoir adapter la reprise par rapport aux besoins aussi de bébé et sans perdre sur que ce soit un tableau ou l'autre.
Mmh. Est-ce que tu as envie, là, sur les années à venir et après sur ton après-carrière, de continuer à prendre position et militer en quelque sorte pour les droits des femmes dans le sport ?
Absolument. C'est que le début. Je ne savais pas, mais moi, je veux faire entraîneur. Aujourd'hui, c'est la voie que j'ai choisie et que je commence à me former pour ce métier. Et il y a un de vos collègues qui m'a dit la dernière fois, mais en fait, vous savez qu'il n'y a pas de femmes noires entraîneurs. Je regarde et c'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est mon prochain challenge. Et de le combiner avec mes enfants, je ne sais pas si aujourd'hui... Bon, je n'ai que 37 ans bientôt. Je suis encore jeune.
Bien sûr.
Si j'ai encore envie d'avoir d'autres enfants, alors gamine, je voulais avoir 10 enfants. Alors bon, ma prétention a été revue à la baisse. Mais je ne sais pas, j'aurais peut-être encore envie de faire un dernier. Et ça ne m'empêchera pas, si je veux être entraîneur, d'être maman et de continuer à faire ce métier d'entraîneur. je me vois très bien faire les deux ensemble et je ne me pose pas de questions. Est-ce que je vais devoir renoncer à une maternité alors que j'embrasse encore une fois ce métier de haut niveau dans les mêmes conditions, voire même pire, puisque l'entraîneur travaille beaucoup plus que les joueurs, parce que ça ne s'arrête jamais quand on entraîne. Mais oui, je suis prête pour ça et je pense que je n'arrêterai pas. C'est parce que ça fait partie de moi aujourd'hui et que c'est important d'apporter ce témoignage-là hein, pour étoffer, pour rappeler aux gens que oui, c'est possible.
Et peut-être faire enfin rentrer sur la convention collective des basketteuses l'arrêt maternité aussi.
Mais ça, on va y arriver.
serait une belle
bien
avancée
sûr,
déjà
bien
au
sûr,
moins.
Bien sûr. C'est pas encore acté, mais je pense que ça fait partie des choses. Voilà, c'est dans les papiers hein, quand on en parle avec aujourd'hui le syndicat et même moi j'ai eu la chance d'avoir rencontré l'ancienne ministre des Sports et ça fait partie des choses qui vont se réaliser et encore heureux, j'ai envie de dire encore heureux.
Une dernière question pour clôturer le podcast que je pose à toutes les championnes que je rencontre, justement, quelle est ta définition d'une championne?
Oula. Pour moi, une championne, avant tout, c'est être résilient. Pour moi, si je dois me définir, me dire je suis une championne parce que je n'abandonne pas, en fait. Parce que même quand c'est dur, je vais peut-être me prendre un stop, je vais peut-être faire une pause, mais je reviens. Je me ressource pour revenir au combat et peu importe le sujet, je suis toujours dans la bataille, dans la lutte, d'en faire progresser et cette résilience-là, pour moi, oui, ça, c'est être championne. Jamais abandonner. Toujours se relever.
Parfait. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Isabelle.
Merci.
Merci pour cette heure passée
merci,
ensemble
Cléo.
Et pour ton témoignage qui est vraiment très enrichissant.
Merci à
et,
toi.
Et effectivement, je pense que c'est important d'avoir des témoignages comme le tien.
Oui.
Et on en a de plus en plus et heureusement mais voilà, la bataille n'est pas gagnée encore donc
non c'est pas gagné mais après vous savez je pense qu'on le dit peut-être pas assez mais moi aujourd'hui si je suis comme ça les gens ils me disent mais comment t'as réussi moi j'ai rien réussi du tout. Je pense que c'est ce que je vis. Ma grand-mère, moi je suis une descendante des Amazones, ma grand-mère avec rien elle a élevé une dizaine d'enfants en allant au champ sans le soutien de son mari. Ma mère, elle nous a élevés, même si elle était mariée. Son mari travaillait dans un autre pays et venait une fois toutes les deux semaines passer 2-3 jours avec elle. Donc, je pense que c'est l'exemple aussi qui fait... C'est pour ça, pour moi, dans l'éducation, c'est important ce qu'on fait. On a beau dire à nos filles, soyez fortes, si nous-mêmes, on ne l'est pas et on ne leur montre pas, elles ne le seront pas, tout simplement. Donc, commençons à être les exemples qu'on a envie... Pour nos enfants, tout simplement.
Pour les futures générations, tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. Et je conseille à tout le monde d'aller acheter ton livre Géante.
Merci.
Les matchs de ma vie, parce qu'on a, parlé d'une toute petite partie, de ta vie.
Oui.
Et il y a plein d'autres choses à découvrir sur ton parcours.
Exactement.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'acheter et à découvrir un peu plus qui tu es.
Un bout de moi dans vos vies, comme je dis.
Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, écoute, le combat continue, j'ai envie de dire.
Exactement. Le match, il n'est jamais fini. Hein,
c'est ça.
Merci beaucoup, Cléo.
Salut, merci, Isabelle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt !